Bonsoir. Dans une déclaration conjointe publiée samedi dernier, les représentants du gouvernement congolais et de l'AFC M23 annoncent de nouvelles étapes pour faire avancer le processus de paix engagé à Doha au Qatar. Réunis du 17 au 21 août dernier en Suisse, ils ont notamment élaboré une feuille de route pour la suite des négociations et convenu de mettre en place un mécanisme chargé d'examiner les progrès et les difficultés liées à la mise en œuvre de leurs engagements. Il s'agit notamment du calendrier et des étapes des négociations sur les protocoles restant à négocier. Kinshasa et l'AFC M23 ont aussi transmis aux facilitateurs des recommandations sur la voie à suivre pour mener des négociations constructives et favorables, favoriser la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties. Ces dernières ont toutefois insisté que l'ordre dans lequel les différents protocoles seront négociés ne déterminera pas leur ordre de mise en œuvre. Enfin, les deux parties réaffirment leur engagement à poursuivre les négociations en vue de parvenir à une paix globale et une résolution du conflit à travers la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha. Quelle analyse faire de cette autre étape de ce processus de paix de Doha? C'est la question au débat ce soir et pour l'évoquer, nous recevons Achille Kapanga, avocat analyste indépendant, mais aussi expert des questions de sécurité. Achille Kapanga, bonsoir.
Merci beaucoup de me convier à ce grand débat. Je vous salue, je salue tous les co-débatteurs. Je pense que tout le monde qui nous suit à l'instant trouvera dans ce débat des petites réponses aux différentes préoccupations.
Autour de cette table également, Rigen Miviri, bonsoir.
Bonsoir.
Rigen Miviri, vous êtes aussi avocat et chercheur à Ebouteli, organisation partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Et enfin, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile de la province du Nord Kivu. Placide Nzilamba, bonsoir. Placide Nzilamba doit nous rejoindre physiquement ce soir dans les studios de Radio Kapi. Le décor étant donc ainsi planté, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Vous veniez de l'entendre dans une déclaration conjointe publiée samedi dernier. Les représentants du gouvernement congolais et de l'AFC M23 annoncent de nouvelles étapes pour faire avancer le processus de paix engagé à Doha au Qatar. Réunis du 17 au 21 août dernier en Suisse, ils ont notamment élaboré une feuille de route pour la suite des négociations et sont convenus à mettre en place un mécanisme chargé d'examiner les progrès et les difficultés liées à la mise en œuvre de leurs engagements respectifs. Plus de détails avec vous, Martial Papi-Munkeba.
Selon cette déclaration, le gouvernement congolais et l'AFC M23 ont convenu de mettre en place un mécanisme chargé d'examiner les progrès réalisés et de répondre aux difficultés liées à la mise en œuvre des obligations et engagements prévus par l'accord cadre de Doha. Les deux parties ont également élaboré une feuille de route qui fixe les différentes étapes et les calendriers des négociations sur les protocoles restant à négocier. Elle précise toutefois que l'ordre dans lequel ces protocoles seront négociés ne déterminera pas leur ordre de mise en œuvre. Kinshasa et l'AFC M23 ont par ailleurs transmis des recommandations aux facilitateurs sur la voie à suivre pour mener des négociations constructives et favoriser la mise en œuvre des engagements pris par les deux parties. En fait, les deux parties réaffirment leur engagement à poursuivre les négociations en vue de parvenir à une paix globale et à une résolution du conflit à travers la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha. Béni, Martial Papi-Munkeba, Radio Papi.
Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert des questions de sécurité. Il y a quelques jours encore, l'actualité nous faisait état d'un certain rapprochement, d'une certaine avancée entre la RDC et le Rwanda sur les préoccupations qui concernent les accords de Washington sur certains points. Aujourd'hui, c'est le gouvernement de la RDC qui reprend les avancées avec l'AFC M23. Y a-t-il un lien, selon vous, entre ce qui s'est passé il y a quelques jours autour de l'accord de Washington et ce qui se passe en ce moment autour des échanges et du processus de paix de Doha?
En fait, moi je pense que la question sécuritaire, la question de l'Est de notre pays, est déjà devenue une question multidimensionnelle. Et quand elle devient multidimensionnelle, on ne sait maintenant pas sur quelle pierre elle m'a dansé. Puisque tantôt on est peut-être aux États-Unis, le lendemain on se retrouve à Doha, comme vous l'avez dit, bon, demain on est en Suisse, bon, quelques temps après on ira peut-être en Angola, au Togo. Bon, on ne sait pas vraiment bien comprendre cet état de choses-là. Néanmoins, comme les volontés sont en train de se développer pour qu'on puisse aller vers la paix, vers la solution, on ne peut d'abord qu'encourager. Puisque le fait que les volontés commencent à se manifester, pour nous, bon, nous pensons que toutes les questions-là, et toutes les rencontres qu'il y a à travers le monde entier, bon, pourraient peut-être être orientées vers un même sens pour qu'on puisse trouver des solutions. Sauf que, je veux répéter que cette question, il faut bien la comprendre. Puisque la question de l'Est de notre pays, c'est une question qui est liée à peut-être à trois dimensions. Il y a les dimensions internationales, les dimensions régionales et sous-régionales, les dimensions internes, tout comme les dimensions nationales. Alors, ces trois dimensions-là, on a vu le chef de l'État qui a fait le tour du monde dans les dimensions internationales, même si les organisations internationales n'ont pas peut-être réussi à imposer ce dont on s'attendait. Au niveau de la sous-région, de la région, vous sentez qu'il y a certains États africains qui sont prêts à accompagner la RDC, mais d'autres qui font encore tenir leur pas et peut-être qui jouent aussi à l'hypocrisie. Bon, et maintenant, au niveau interne, c'est tantôt les opposants, tantôt les CC, tantôt l'Église catholique, tantôt la société civile. Donc, on est dans une confusion là où on ne sait pas vraiment on veut faire quoi exactement. Et dans tout ça, c'est maintenant l'M23 qui, de son côté, a développé sa philosophie, puisque maintenant, elle ne veut plus céder. Elle est déjà à Goma, à Bukavu. Bon, dernièrement, on a suivi ce qui s'est passé à Fizi. Bon, on semble comprendre que l'M23 semble profiter de cet état des choses pour consolider ce qu'il veut faire dans la partie qu'il a déjà conquise. Mais comme la question ici concerne la Suisse, comme vous l'avez dit, et vous voulez demander peut-être s'il y avait certaines relations entre ce qui est les États-Unis avec l'AFC M23, comme vous venez de le dire tantôt, donc le Rwanda et le M23. Mais moi, je pense que c'est toujours aberrant, c'est pas, je peux dire, inquiet, de ne pas comprendre que l'AFC M23 ne peut pas exister sans le Rwanda. Parce qu'aussi longtemps que nous serons en train de faire des lectures différentes sur cet état de choses, on ne comprendra rien. Parce que je l'avais répété un jour que M. Kone Nanga n'avait pas quitté la CENI avec les armes pour se retrouver à Goma. Non, non. Toutes les armes qui sont à Goma sont les armes du Rwanda. Alors, ces armes-là sont utilisées par les Congolais. Alors, penser qu'on peut dissocier les Rwandais de l'AFC M23, c'est vraiment chercher à distraire l'opinion. Voilà pourquoi, quand les Rwandais veulent jouer peut-être une portée de loin pour montrer que c'est un conflit congolais, ils utilisent l'AFC M23. Mais quand ce sont ses intérêts directs qui sont touchés, bon, c'est Kagame M23 qui s'affiche. Alors, voilà pourquoi je voudrais que notre gouvernement, quand on entre dans les négociations, il faut qu'on sache avec qui on joue et comment on joue. Mais j'avais dit aussi un jour qu'il y avait un souci majeur. La qualité des personnes qui partent négocier, c'est aussi ça un souci. Parce que la plupart des fois, on va traiter la question de l'Est, oui. On est à Doha, on est en Suisse, on est aux États-Unis, on est partout. Mais la question de l'Est, vous n'allez pas trouver les vrais acteurs de l'Est. Vous savez, il y a ceux qui ont dirigé le Nord Kivu. Il y a ceux qui vivent les réalités profondes du Nord Kivu. Et savent au moins que non, ça c'est une réalité d'hier, et ça c'est une réalité d'avant-hier. Mais quelqu'un qui est peut-être à Kinshasa, qui est très loin, bien aux États-Unis, partout, lui a la géographie, mais il n'a pas la réalité sur le terrain. Voilà pourquoi je veux insister que quand on fait le choix des acteurs qui partent négocier, il faut quand même qu'on puisse se référer aussi aux vrais dignes fils Nord Kivu, qui maîtrisent, qui vivent les réalités. Parce que quelqu'un qui a les rapports des experts, sont des rapports qui contiennent certaines réalités, mais avec des tendances. Parce qu'il y a certains acteurs qui ne veulent pas que cette guerre puisse prendre fin. Ils y tirent profit. Alors, quand on doit chaque fois se fier à ces rapports-là, sans tenir compte des réalités réelles sur le terrain, et sans associer non plus les vrais acteurs politiques de l'Est du pays, sincèrement, bon, on sera en train de jouer à la prolongation du climat. Donc, selon moi, Suisse, oui, on veut fixer un programme, comme on l'a dit, un calendrier, pour cette fois-ci bien faire, mais ce n'est pas la première fois qu'on apprend de tels slogans. On était devant Trump cette fois-ci, c'est parmi les grands de ce monde. Mais après Trump, qu'est-ce qu'on a vu? Et on se dirait, on a été à Doha. Après Doha, qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, on est à Suisse. Après Suisse, on verra quoi? Entre temps, sur terrain, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se dessine? Voilà pourquoi il faut toujours associer les réalités sur terrain avec ce qui se dit là-bas. Parce que les personnes qui partent négocier pour le compte de la RDC, j'ai toujours douté, quelquefois, de leur maîtrise profonde de la question.
Ce n'est pas dire qu'on vous l'avez déjà signalé, Achille Kapanga, dans les assises de samedi dernier, un certain nombre de vocabulaire assez complexe est utilisé dans les communiqués et dans le discours publié. Il est par exemple dit que les deux parties ont émis des recommandations sur la voie à suivre pour mener des négociations constructives et favoriser la mise en œuvre des engagements pris dans les deux parties. D'autres vocables disent aussi que les deux parties insistent que l'ordre dans lequel les différents protocoles seront négociés ne déterminera pas leur ordre de mise en œuvre. Et puis, dernière observation, il est écrit que les négociations en vue de parvenir à une paix globale et une résolution du conflit à travers la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha. Comment avez-vous compris en une phrase ou deux toutes ces terminologies complexes?
Quand on dit par exemple que ces dernières ont toutefois insisté que l'ordre dans lequel les différents protocoles seront négociés ne déterminera pas leur ordre de mise en œuvre, ça c'est déjà un aspect très profond. Donc on peut bien dire qu'on veut faire ça et ça et ça, mais si quelqu'un voit que ce qu'on veut faire touche ses intérêts, il peut encore bouleverser la carte. Donc il n'y a pas assez d'engagement cohérent ou bien profond dans le jeu où on veut nous amener. Parce que on dit on veut le faire pour le peuple congolais. Bon, d'une manière cohérente, on veut faire ça, on veut faire cela. C'est bon, ça nous encourageons. Mais nous voulons que sur terrain, qu'on voit les concrets. C'est bien de dire tous les vocabulaires là qui ont été développés, c'est bon. Mais le peuple de l'Est, le peuple de qui voit les massacres, qui voit Goma toujours pris, qui voit Pierre Bukov toujours pris, qui ne voit pas vraiment une paix s'annoncer à l'horizon, croira à quoi? Voilà pourquoi je pense qu'en dehors de toutes les théories qu'on est en train de développer, il faut maintenant qu'on commence à faire appliquer, qu'on sente que cette fois-ci, on avait décidé la première étape, la voilà en œuvre, et le peuple maintenant comprendra que c'est du sérieux. Mais quand on est toujours dans des théories, alors que les pratiques sur le terrain peine à être vécu, le peuple est toujours dans les doutes, et le peuple est toujours dans cet état-là de rejet de ces questions-là. Et voilà pourquoi je disais qu'on doit maintenant associer les vrais acteurs pour que la communication soit réelle. Parce que c'est le peuple de l'Est qui doit bénéficier de toutes ces résolutions-là, en particulier parce que c'est à l'Est où il y a le feu, c'est là où il y a la situation calamiteuse. Alors, si le peuple de l'Est n'a pas senti les effets réels de toutes ces démarches depuis qu'elles ont commencé, vous voulez que le peuple dise quoi? Voilà pourquoi il faut que les élus soient aussi associés, qu'ils viennent en vacances parlementaires. Ils vont commencer à expliquer au peuple que non, voilà l'étape qu'on a atteinte et voilà comment on est en train d'évoluer. Mais quand on ne sent rien, on ne voit rien de concret et que peut-être la MONUSCO qui semble nous aider, bon, continue peut-être avec presque les mêmes pratiques d'observation, peut-être, bon, le peuple dit finalement, on sera là jusqu'à quand et ça va demeurer jusqu'à quel siècle. Merci. C'est ça l'interrogation que nous posons.
Merci Achille Kapanga. Rigaine Miviri, vous êtes vous aussi avocat et chercheur à Ebouteli, organisation partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo. Comment analysez-vous ce qui est sorti des assises de samedi dernier en Suisse? Comment comprenez-vous tous les vocabulaires complexes qui semblent avoir été utilisés dans les communiqués publiés?
Encore une fois, bonjour à tout le monde et c'est l'état de le dire et de répéter toute notre compassion à toutes les populations qui subissent encore cette situation, cette crise qui dure. Et malheureusement, il est clair qu'on tourne en rond et c'est pour ça qu'on cherche des mots trop loin pour nous dire tout simplement qu'on n'a pas beaucoup avancé. Donc, on est à un an de la signature du premier protocole, donc qui était censé être le cessez-le-feu, et c'est à peine que aujourd'hui, le 24, on a eu finalement la première visite à Minembwe sur la question de la surveillance du cessez-le-feu. Donc, clairement, on voit que ça prendra beaucoup de temps. Si le débit de mise en œuvre d'un protocole a pris un an, alors combien de temps faudra-t-il pour faire la mise en œuvre des 8 protocoles. Donc, c'est la plus grande question, donc le temps. Un luxe que les populations qui subissent les affres de la guerre ne peuvent pas avoir.
Alors, Rigen Miviri, un peu la même préoccupation, hein, puisque on voit la RDC pour justement essayer de résoudre les questions de paix à l'est du territoire, utilise plusieurs instances et plusieurs espaces d'échange. On connaît une des versions plus ou moins officielles donnant la position de l'AFC sur la question des échanges, des contacts, des dialogues. On veut pas citer le mot dans tous ces échanges de la même manière. Et selon vous, l'AFC qui disait qu'il ne voulait pas participer au dialogue convoqué ou qui sera bientôt convoqué à Kinshasa, mais qui continue d'échanger avec le gouvernement sur un autre panel appelé processus de Doha, doit-on prendre justement finalement au sérieux les différentes positions des uns et des autres, ou bien il y a à regarder ça avec un peu de résistance?
Bon, déjà il faut dire que le processus de Doha, il est spécifique à deux acteurs, le gouvernement congolais et le M23, donc c'est entre les belligérants. Et dans cette optique-là, c'est ce qu'on considère que la crise, elle est d'abord sécuritaire. Ce qui est déjà, je pense, une analyse biaisée, parce que cette crise, avant d'être sécuritaire, elle est d'abord politique, et là, d'abord été politique avant d'être sécuritaire. Donc, avoir que deux belligérants en Suisse pour discuter de la crise, et aussi proposer des solutions et le mettre en œuvre pendant qu'il y a d'autres acteurs pertinents qui peuvent aussi contribuer, je pense que c'est déjà une limite à ces processus. Deuxièmement, quand vous considérez que il s'agit de 8 protocoles et que là on a signé que 2 protocoles, là sur le cessez-le-feu, l'autre sur l'échange des prisonniers, il est normal que ces 2 protocoles concernent d'abord les gens qui sont actifs dans le combat. Ce qui fait sens, que ça soit le gouvernement congolais et le M23, étant donné que le Rwanda, lui, il est pris en charge dans le processus de Washington. Alors, la limite vient du fait que les 6 autres protocoles portent sur des questions d'intérêt national, des questions qui nous concernent tous. Dans les 6 autres protocoles, on parle de questions de décentralisation, on parle de questions de gestion des ressources, on parle de questions de réforme institutionnelle. Et de quel droit les 2 belligérants peuvent décider de l'avenir du reste du pays dans un contexte où une partie du pays est contrôlée par une rébellion soutenu par le Rwanda? Donc, c'est très important de dire que probablement que le processus de Doha a atteint ses limites avec les 2 protocoles qui peinent déjà à avancer, mais qui, bon, ont les raisons d'être discutés à Doha. Mais au-delà de ces 2 protocoles, le reste, ce sont des questions qui doivent être discutées dans un processus plus large, et notamment le processus du dialogue qui est en train d'être entamé. Parce que là, au moins, il y a une plus large légitimité, il y a un plus large consensus, et il est possible que ce soit facile de mettre en œuvre les engagements, étant donné que tout le monde sera là. D'où la condition aussi de l'inclusivité. Mais si le même gouvernement qui est en train de parler avec l'homme 23 à Doha, veut l'exclure, alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème, parce que c'est illogique, étant donné qu'ils sont déjà en train de discuter avec le même groupe. De la même manière que le M23 refuse de venir à un dialogue, aussi illogique, étant donné qu'ils sont déjà en train de parler avec le gouvernement congolais. Alors pourquoi ils ne peuvent pas parler avec le reste de la population congolaise? Est-ce que eux, ils ont un traitement spécial pour qu'ils puissent avoir un aparté, un à côté avec le gouvernement congolais et qu'ils ne soient pas capables de venir défendre leur position face à d'autres Congolais autour d'une table? Donc voilà, et c'est pour ça que essentiellement, et beaucoup l'ont dit déjà, il me semble qu'il est important que l'on puisse privilégier un processus qui soit inclusif et que tous les autres processus, que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, ce soit des processus qui soutiennent un processus purement congolais qui est le dialogue national.
Merci Rigen Miviri, restez avec nous dans ces échanges. Placide Nzilamba, merci, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans ce débat dans les studios de Radio Okapi. Vous êtes secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Achille Kapanga, qui a pris la parole un peu avant vous, a, selon lui, exprimé, selon lui, aussi les attentes de la population. Mais vous, qui êtes de la société civile, vous avez en principe ces préoccupations sur votre table régulièrement. Quelle est, selon vous, la réaction des populations au résultat de ce qui s'est passé samedi en Suisse?
Tout d'abord, je dois saluer les nombreux auditeurs qui nous captent à pareil moment à la Radio Okapi, et saluer les co-débatteurs, notamment Achille Kapanga et Maître Miviri de Bouteli, et dire que en écoutant, que ce soit Maître Achille, que ce soit Maître Miviri, vous sentez déjà que ça sont des Congolais qui sont un peu avertis, mais qui sont déjà dubitatifs par rapport à ce qui s'est fait. Alors pour les Congolais maintenant ordinaires, les Congolais lambda, c'est une totale déception.
Expliquez un peu.
Et cette pièce théâtrale d'ailleurs devait finir au lieu de tromper le peuple congolais.
Pourquoi vous appelez ça pièce théâtrale et pourquoi il y a déception selon vous? La RDC a une partie de son territoire grignotée par une rébellion appuyée par le pays étranger que tout le monde connaît. L'État décide d'échanger avec ceux-là qui sont en train d'occuper illégalement ce pan de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Pourquoi c'est une déception?
Au départ, se rencontrer, discuter, c'est d'abord une bonne chose. Toute démocratie est basée sur les dialogues, les échanges, et ce n'est pas mauvais. Mais la manière avec laquelle cette discussion se déroule et les résultats dont elles accouchent, c'est vraiment une totale déception.
Selon vous, la population aurait voulu quoi, souhaité quoi?
Il y en a plus aujourd'hui. Ceux qui ont fait la guerre à Bounagana totalisent presque 5 ans aujourd'hui, en attendant la solution. Mais toujours à rond. Et ceux qui ont vécu cette guerre à chair et à os depuis les années 1990, et qui attendent toujours la solution durable, ils vous diront quoi? Donc c'est plus pire qu'une déception. Parce qu'on pensait que cette fois-ci, toutes les organisations régionales, internationales se sont déployées, ils ont structuré les mécanismes de résolution. Bon, d'autres, les États-Unis sont venus. Dans moins d'États, les États-Unis ont eu un accord. Malgré que cet accord peine à être respecté, mais au moins, les discussions des États-Unis ont abouti à un accord. On serait déjà dans la mise en œuvre de ce qu'ils appellent les CONOPS. C'est des plans de mise en œuvre, quoi, des engagements pris. Mais voilà, ceux qui ont commencé avant les États-Unis, ils vous amènent les résultats que maintenant ils vont entamer les discussions sur d'autres protocoles. Qui leur a donné d'abord ce pouvoir de discuter sur les autres protocoles, là, sans les Congolais? Parce que tous deux sont des protagonistes, et apparemment, à la lire où vont les choses, et le gouvernement, et l'M23, le peuple congolais vont le prendre au même titre. Parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt des Congolais qui souffrent dans leurs discussions.
Si, il y a un intérêt. Ils sont en train de parler des mécanismes qui doivent, je crois que si je lis ce qui nous a été rapporté, des négociations en vue de parvenir à une paix globale et une résolution du conflit à travers la mise en œuvre de l'accord cadre de Doha.
Je n'invente rien. Voilà. Ils ont pris tout cet état pour voir que c'est que deux protocoles. Cesser le feu et échange de prisonniers.
Vous ne pensez pas que ce type de négociation prend un peu de temps, il faut être un peu patient et que
patient lorsque nous on enterre chaque jour.
Lorsqu'ils ne se parlaient pas, c'est on pouvait être vraiment dans la grande déception. Maintenant qu'ils ont repris un peu le sens.
Moi je vous dis d'ailleurs, il faudrait qu'ils laissent, qu'ils suppriment ça ne nous sert à rien. C'est gaspiller les moyens de l'État pour rien. C'est fâcher le peuple pour rien. Vous comprenez? Si vous vous donnez le courage d'attaquer une maladie et que vous n'avez pas la possibilité de la vaincre, c'est qu'elle va vous tuer vous-même. Pour le peuple aujourd'hui, c'est de leur dire de stopper cette aventure-là, elle n'ira pas trop loin. Il faut imaginer une autre approche par laquelle il faut passer pour trouver la solution. Mais cette approche-là de Doha, c'est une aventure, ce sont des théâtres que nous ne sommes plus capables de cautionner. Ça, je dois vous le dire avec des termes clairs.
Merci, Placide Nzilamba. Tout à l'heure, avant qu'on termine l'émission, nous allons essayer de vous donner la parole pour que vous nous disiez un peu des pistes, qu'est-ce qui doit être exactement fait, puisque vous semblez évoquer la déception et dire que ce n'est pas le bon chemin qu'il faut prendre pour arriver à la pacification attendue par l'ensemble des Congolais. Maintenant, nous allons aussi donner la parole justement à quelques Congolais qui vont dire eux-mêmes comment ils sentent la chose et vous allez réagir tout juste après. Pour vous, nous allons prendre cet auditeur de la Tchopo, Gaston.
Gaston Bilamo depuis Sangui, province de la Tchopo. La poursuite des négociations de Doha mérite d'être saluée car toute initiative susceptible de rapprocher les parties congolaises d'une paix durable doit être encouragée. La feuille de route est un signal positif et important. Mais cette nouvelle étape ne doit pas masquer les limites du processus. Pendant que les discussions se poursuivent, une partie de l'Est de la RDC reste sous occupation, tandis que des populations civiles meurent et vivent dans les sécurités. Paradoxalement, Kinshasa poursuit ses négociations avec l'AFC M23 tout en rejetant la présence de cette opposition armée dans les dialogues nationaux et inclusifs qui se préparent. Ces initiatives n'ont jusqu'ici produit que peu de résultats palpables sur le terrain. Dès lors, une question s'impose. Qu'est-ce qui justifie ces paradoxes entre négocier à Doha et refuser les mêmes dialogues au niveau national?
Alors, il termine par une préoccupation qu'avait soulignée Rigen Miviri, mais globalement, tout au début de sa réaction, lui, il est favorable pour ces échanges, il veut les encourager. Vous l'avez entendu dans tous les cas, qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, moi j'ai fait la logique mathématique, qu'on appelle la logique moderne. En faisant, donc, il y a des disjonctions entre ces idées. Il commence par saluer, puis il dit, bon, le résultat est foutu. Donc, lui-même conclut qu'il n'y a rien. Et pour nous, c'est de dire, au fur et à mesure qu'on souffre d'une maladie, parfois on est capable de dire au médecin, ce médicament ne m'aide pas. Essaye de changer celui-là. Et ces négociations-là, le plus grand problème qu'ils connaissent, c'est d'avoir rejeté les victimes sur la table. Les victimes n'y sont pas. Alors, il y a la donne purement politique et sécurocratique. Où est la voix de la victime? Et maintenant, tout le monde joue à ses intérêts. Celui-ci va toucher ici. Voilà des phrases hypocrites que vous avez prononcées là-bas. Il n'y aura pas succession logique dans la mise en œuvre des protocoles. Donc, ça, ce sont des phrases purement vides et même hypocrites devant la situation. Mais nous avons besoin de mesures concrètes. Ils nous ont promis le cessez-le-feu. Rien du tout. À ce moment même, les M23 bombardent et poursuivent les combats, comme d'habitude. Ils nous ont promis aussi, donc, mesures de décrispation. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Il n'y a rien. Alors, ils veulent aller continuer à parler des ressources, des réformes institutionnelles entre les deux seulement. Pourquoi chasser le peuple de cette table-là? Qu'est-ce qu'ils cacheraient? C'est pourquoi je dis que tous les doigts seront suspects à un certain moment. Alors, à notre niveau, c'est de dire, comme les autres sont en train de proposer des pistes de solutions, c'est de dire cette approche-là est mauvaise parce que primordialement, on a dissocié les Rwanda et les M23.
On reviendra à vous tout à l'heure pour donner les solutions comme mot de la fin et justement pour bien terminer ces échanges. Rigen Miviri, vous êtes vous aussi avocat et chercheur et Bouteli, organisation partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Pour vous, cher Miviri, nous allons écouter cet auditeur de Kananga.
Dieu François Kaninda, depuis Kananga, dans la province du Gassai central. Mon analyse par rapport à cette nouvelle étape entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais reste hypothétique. En fait, le gouvernement congolais devait passer en action, étant donné que depuis lors, aucun cessez-le-feu n'a été respecté par les rebelles. À travers cette indélicatesse souvent manifestée par AFC M23 et la réelle volonté de conquérir les nouveaux territoires, il est plus que urgent de riposter, donc passer par la force majeure, car il s'agit bien évidemment de la mascarade aux yeux.
Rien, Mivry?
Je pense qu'il est en train juste de faire un constat que nous voyons tous que voilà que ça ne marche pas. Mais est-ce que ça signifie qu'il faut arrêter tout processus de résolution pacifique de ce conflit? Probablement non, parce que de la même manière que ce processus, particulièrement celui de Doha, n'avance pas, de la même manière, sur le plan militaire, on ne peut pas dire qu'on est en train de trouver des solutions. Donc, ce n'est pas que on est en train de dialoguer parce que on veut, mais aussi c'est parce que sur le plan militaire, il n'y a pas eu des avancées. La guerre a échoué en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pacifique, mais qui ne soit pas dans le sens de perdre ou bien de pérenniser en fait une situation de fait qui est malheureuse pour beaucoup de populations, qui est malheureuse pour beaucoup de Congolais qui se sont déplacés de Goma parce que ils ne se sentent pas en sécurité là-bas, ou bien qui sont restés à Goma mais qui ne peuvent pas avoir de moyens de subsistance parce que l'économie du milieu a été chamboulée, parce que ils travaillent pour l'État et qu'ils sont obligés de quitter Goma et d'aller dans d'autres coins où ils survivent difficilement. Donc il faudrait pas faire comme si il y a une autre option meilleure à la guerre. Je pense que au moins la guerre, on l'a déjà essayé. On a vu qu'elle a échoué. Mais en ce qui concerne le processus pacifique, j'estime qu'on n'a pas tout essayé. Et j'estime que même ce qu'on a essayé, on ne l'a pas bien fait. Et notamment, il y a un co-débatteur qui a évoqué le fait que parfois on négocie mal. Parfois on n'est pas très préparé. Parfois on ne sait pas vraiment mettre en avant les intérêts du pays.
Tout à fait.
Et parfois aussi les interlocuteurs sont aussi de mauvaise foi. Mais n'empêche, le dialogue au moins, il a le mérite car c'est bien fait de préserver des vies humaines.
Regarde, Mivry, les deux intervenants ou co-débatteurs de ce soir qui semblent ne plus attendre grand-chose du processus de Doha parlent de décès qui continuent, de l'hécatombe des Congolais qui continuent d'être enregistrés pendant qu'on continue de traîner encore en longueur. Vous allez nous donner votre avis à ce sujet. Mais avant d'arriver à cela, les deux camps utilisent dans leur communiqué des vocabulaires comme l'ordre dans lequel les différents protocoles seront négociés ne détermine pas l'ordre de mise en œuvre. Est-ce que c'est par lucidité politique ou bien c'est une autre façon de ne pas dire clairement les choses?
Non, je pense que les deux acteurs veulent nous faire comprendre tout simplement qu'ils ne sont pas de bonne foi et qu'ils peuvent signer des choses et ne pas le mettre en œuvre. Donc, et ça, c'est irresponsable de leur part parce que si on s'engage à faire quelque chose, c'est pour le mettre en œuvre. Donc, si eux, ils ont le luxe de...
Alors, Lorgen Mivry, les lignes se sont dégradées. On va essayer de vous rattraper tout à l'heure pour une autre prise de parole. Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert des questions de sécurité. Pour vous, nous allons écouter Fabrice et vous allez réagir.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Je trouve paradoxal que sur le territoire national, les discours officiels consistent à dire qu'on ne négocie pas avec ceux qui ont pris les armes. Alors qu'au même moment, l'État congolais négocie directement avec l'AFC-M23 sous la médiation du Qatar. Il y a lieu de se poser la question, est-ce que cela signifie que ceux qui prennent les armes deviennent finalement des interlocuteurs légitimes à condition que la négociation se déroule à Doha? C'est une question que les autorités doivent pouvoir expliquer clairement à l'opinion. Personnellement, je ne suis pas contre la recherche de la paix, mais au contraire, tout Congolais souhaite la fin de la guerre, parce qu'une paix durable ne peut pas reposer uniquement sur des communiqués et des feuilles de route dont les contenus restent largement flous pour la population. Aujourd'hui, nous avons presque l'impression que chaque parti peut considérer qu'il a obtenu quelque chose. D'un côté, Kinshasa continue à exercer son pouvoir sur une grande partie du territoire national, tandis que du côté de l'AFC-M23, on maintient des positions sur le terrain et on cherche à les consolider et maintenir même l'influence. Nous avons comme l'impression que la posture actuelle du pouvoir peut nourrir à tort ou à raison la crainte d'une balkanisation.
Achid Kapanga.
Le co-débatteur, l'ami qui a intervenu, il est dans ses droits de le dire. Néanmoins, moi quand j'ai toujours suivi les discours du pouvoir, du gouvernement, il a toujours évoqué un mal profond. Donc on dirait qu'il y avait presque une nécrose de la plaie. Maintenant, c'était déjà très profond et on est en train de voir comment soigner ça. C'est une histoire de plus de 30 ans, selon le langage du gouvernement, comme on l'a toujours suivi. Donc on s'est dit aussi pendant plus de 9-10 ans qu'on est là, bon, on a réussi peut-être concrètement à faire quoi. Bon, peut-être on a stoppé l'avancée du M23, mais l'avancée qui semble être stoppé, alors que profondément, on sait que l'esprit belliqueux est toujours là. Bon, pour moi, dire que le gouvernement a fait des communiqués et qu'on sort, oui, on l'a toujours fustigé, le gouvernement a toujours fait des communiqués et on l'a toujours suivi, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Moi, je dis que il faut qu'on associe le vrai acteur, parce que quand vous voulez faire quelque chose pour moi, sans moi, comment je comprendrais que vous le faites pour moi? C'est pratiquement difficile. Pourquoi je dis ça? Vous savez très bien que cette guerre de l'Est, elle est là depuis, disons, la FDL. Mais il y a des gens qui ont vécu ça. Et des gens qui comprennent comment ça se passe. Mais on ne les a jamais vus être consultés. Oui, on peut être ministre. Je peux citer le cas de Julien, Mboussa Nyamoussi. Je peux citer tous ces noms, les noms peuvent être cités là. Mais il faut quand même, en dehors d'être acteur direct, ils peuvent même être consultés, mais vous sentez que les gens qui partent dans des négociations viseraient des fois uniquement les frais d'émission. Alors, quand ça devient une question de frais d'émission, vous voulez aboutir à quoi? C'est mon frais d'émission. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement, si on nous suit à l'instant, et comme on a toujours suivi la radio au Capi, il faut qu'on comprenne qu'on a besoin que les acteurs majeurs soient associés. Pas les gens qui vivent bien comme une leçon de géographie. Non. Il faut que les gens qui vivent bien, qui voient le sang coule. Comment les gens sont en train de fuir matin, midi et soir. Les gens qui touchent ces plaies-là. Ce sont ces gens qui peuvent aller bien expliciter. Bon, on a vu ça avec Jean Coste, quelques déclarations. Mais ça ne suffit pas. Il faut que quand on est aux États-Unis, qu'on voit les gens réellement qui sentent ça et qui expriment ça. Parce que des fois quand on voit les gens qui n'ont pas ce sentiment profond là de souffrance, bon, ils vont défendre quoi? Ils vont juste te parler, c'est tout. Mais quelqu'un qui sait que ça fait mal, oui, il va continuer à crier.
Achille Kapanga.
Pour dire quoi?
Achille Kapanga, les gens qui sont en désaccord, comme le sont les différents acteurs engagés dans tous les processus de paix qui concernent la RDC, ils n'ont pas besoin d'entendre seulement quelqu'un qui va leur dire qu'il a la plaie, ça lui a fait mal, les photos des cadavres. Mais il faut aussi des personnes qui connaissent comment faire un langage d'échange, un langage d'entente pour ramener les autres dans leur camp. Ne pensez-vous pas que c'est trop simpliste de dire que les intervenants ou les négociateurs dans les différents pour parler devaient être que les gens qui vivent la terreur? C'est peut-être il faut les avoir, mais il faut aussi les experts qui connaissent bien comment amener à bout ces genres de processus, non?
Vous savez comment les Rwandais jouent? Les Rwandais toujours jouent à ça.
ils amènent des victimes là-bas. Aujourd'hui, la question Banyamulenge, la question de Tutsi, c'est la marchandise qu'ils vendent. Mais nous, nous vendons quoi? Il faut même jouer comme l'adversaire. On ne peut pas amener que des attaquants, il faut aussi créer des défenseurs et peut-être des médiateurs. Mais quand on doit amener que peut-être des attaquants, oublier qu'une équipe est formée par des médiateurs, des attaquants et des défenseurs avec les gardiens, l'équipe serait incomplète. Voilà pourquoi je voudrais que notre équipe soit aussi complète. Si on ne fait qu'amener que des attaquants alors qu'il y a des défenseurs qui ne sont pas là, les médiateurs ne sont pas là, comment ça va aller? Voilà pourquoi j'ai dit qu'on doit associer. Il faut qu'on associe les gens qui peuvent aussi mieux faire. Il faut jouer aussi les chefs de l'ennemi. Les Rwandais aujourd'hui, sa marchandise c'est quoi? Vous sentez sa marchandise qu'il est en train de vendre là-bas? C'est les Tutsi, ils sont marginalisés, ils font ceci, ils font ceci, voilà, ils sont tiés. C'est ça leur langage.
Achille.
Pas tel langage. Nous devons dire que non, voilà, au moins, nous aussi les victimes sont là et on démontre, on fait un débat contradictoire. Pour dire quoi? Vous savez que le lobby du Rwanda avait déjà été et grâce au maire. C'est là où je suis d'abord en train de remercier le gouvernement pour les efforts qu'il a fournis quand même. Reconnaissons que le gouvernement a fait quelque chose, le chef de l'État a fait quelque chose de top, l'État, puisqu'il a quand même réussi à montrer à la face du monde que non, non, voilà comment se passe la situation. Moi, je vous dis que la situation que nous voyons aujourd'hui serait une situation de 1997. C'est grâce aux efforts diplomatiques des autres, surtout du président de la République, qu'on a réussi quand même à être là où on est aujourd'hui. Mais quand l'ancien président a quitté pour rejoindre l'M23, les calculs étaient déjà connus. C'était qu'on devait avancer comme était, c'était en 97. Mais heureusement que les efforts des uns et des autres, avec la diplomatie qui a agi, on a réussi quand même à stopper et on est en train de négocier. Maintenant, nous voulons que dans ces négociations-là, qu'on soit sincère, puisque quand on tire à la longueur, le peuple continue à souffrir. Et quand le peuple souffre, le peuple semble être découragé et dessus. Et quand le peuple est dessus, c'est là maintenant que l'ennemi les ramasse. C'est là où l'ennemi les ramasse.
Achille Kapanga, avocat, analyste, indépendant, expert des questions de sécurité, nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de notre émission. Alors, vous revenez régulièrement sur la préoccupation de mettre les personnes qu'il faut dans les négociations de paix en cours et notamment le processus de Doha. Clairement, est-ce que vous pouvez dire en très peu de mots, mais clairement, quel type de personnes on devait mettre là-bas? Comment doit être la composition, puisque vous utilisez une image d'équipe, comment doit être la composition de ceux qui doivent aller négocier pour ramener cette paix à la RDC et ils doivent avoir quel type de méthodologie, selon vous, très rapidement?
On a d'abord besoin de vrais patriotes, les gens qui ne visent pas leurs intérêts, non plus les frais de mission. Donc quelqu'un qui sent qu'il veut aider la RDC. Au niveau du Parlement, on connaît certaines personnes qui ont vécu à l'Est, puisqu'aujourd'hui, avec l'unification des pays, il y a les acteurs de tous bords. Il y a ceux qui ont été à l'RCD KML, l'RCD Goma, tous les acteurs sont là, ils sont connus. Il y a lieu de les consulter des fois pour des questions importantes de la République. Je ne vais pas citer les noms des gens, c'est puisqu'ils sont connus et ils se connaissent. Mais je pense que c'est mieux que le gouvernement d'abord les consulte. Et de deux, quand on doit faire de cette question une question uniquement de la présidence, peut-être, puisque vous rappelez-vous que ce qu'on a vécu en Angola, quand le chef de l'État avait révoqué son envoyé spécial, donc, tout le monde était surpris. Donc, ce n'est pas une question uniquement de la présidence, non. La présidence doit comprendre qu'elle doit ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà pris la présidence comme un lieu où personne ne peut entrer. C'est juste réservé uniquement à la présidence. Non, la RDC a besoin de tous les acteurs. Mais quand les gens doivent penser que ce sont eux qui entourent le chef de l'État et on doit être limité qu'à eux, alors qu'on connaît leurs faiblesses, on voit ce qui se passe à l'extérieur quand ils sont en mission, bon, ça ne va pas nous aider. Il faut aussi que le chef de l'État ouvre ses portes à tous les acteurs. C'est de la deuxième recommandation. Maintenant pour terminer.
Oui, vous allez terminer avec votre troisième recommandation. Mais est-ce que vous avez des certitudes que ceux qui vont là-bas ne consultent pas les personnes dont vous faites allusion? Ils ne consultent pas les vrais fils des lieux concernés et qui connaissent comment il faut approcher? Vous avez des assurances qu'on ne les consulte pas?
Les consultations de formalité ne valent pas la peine, parce que je peux vous donner des pistes de solutions. Mais quand vous êtes sur terrain, c'est comme si je suis un coach, je dis non, vous allez jouer comme ça et comme ça, comme ça, je donne les consignes. Mais quand je vois sur terrain, vous ne respectez pas mes consignes. Je dirais que ce n'était que des formalités. C'est ça la réalité. Ma troisième recommandation, c'est que le gouvernement doit aussi chercher à jouer le jeu de l'ennemi. Parce que des fois, nous retrouvons sur la table avec des questions qui sont un peu légères. Donc nous ne savons pas jouer en avance. Nous devons aussi savoir dévancer les Rwandais. Si on ne joue pas là de la politique de défenseur, le Rwanda, on sera toujours en train de courir derrière. Nous devons aussi les préserver qu'ils aussi commencent à courir derrière. Nous, ce sera très important.
Merci à vous, Achille Kapanga Rigen Miviri. Vous êtes vous également avocat et chercheur à Ebouteli, organisation partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Vous, vous avez bien évidemment encouragé que ce genre d'échange puisse se tenir, mais comme vous sentez, comme une espèce de manque de transparence ou même de sincérité, qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Quelles sont les recommandations que vous feriez, vous, vu le contexte où on est arrivé avec ce processus, pour avancer rapidement, mais peut-être aussi pour déboucher sur des vrais cessez-le-feu et peut-être la fin totale de l'insécurité à l'est du pays?
Oui, avant de proposer, je voudrais revenir un peu sur ce que je disais. C'est quand même... dommage que aujourd'hui, même dans le communiqué, on est en train de normaliser le fait de ne pas respecter ses engagements. Et c'est pour ça que vous avez vu de mots vides qui ont été utilisés dans les derniers communiqués où voilà, on dit que voilà, on pourrait s'engager, mais quand même que on est le calendrier de mise en œuvre ne va pas forcément suivre les engagements tels que pris. Tout ça, c'est pour dire tout simplement qu'ils pensent en fait que qu'ils ont le luxe du temps et qu'ils peuvent se permettre de continuer dans ces statu quo. Peut-être eux, mais pas la population, pas ceux qui sont en train d'être victimes au jour le jour de cette situation. Donc je pense qu'il faut encore revenir sur la question de l'urgence d'une solution durable. Oui, il ne faudrait pas que ce soit des solutions cosmétiques, mais aussi il faut que ça soit le plus vite possible. Et je pense qu'il est possible d'avoir un engagement cohérent sur toutes les questions si on a réellement un dialogue inclusif où tout le monde, tous les acteurs qui se reconnaissent congolais et qui ont de désirs qui ont des préoccupations de désirata, qui les amènent autour de la table et qui soient discutés. Sinon, si on va encore revenir dans cette question d'exclure un tel ou un tel autre pendant qu'on est en train de le parler dans l'antichambre, c'est illogique, c'est pas cohérent, alors même qu'on a besoin d'un processus réellement congolais où tout le monde peut être là et où les questions peuvent être discutées, mais aussi on peut se mettre d'accord sur une mise en œuvre et avoir des mesures en fait de nos répétitions, mais aussi des mesures de pression notamment venant de la population pour que ça soit réalisé. Mais tant que ce sont des arrangements entre individus quelque part ou non, ce n'est pas évident que ça puisse être mis en œuvre sur terrain.
Merci à vous, Rigen Miviri, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile de la province du Nord Kivu. Pour le moment, on est un peu dans plusieurs instances d'échange pour amener la paix en RDC, accord de Washington, processus de Doha dont on parle aujourd'hui, mais aussi le dialogue qui est annoncé et dont on attend toujours la mise en œuvre. Vous dites que vous méfiez un peu de ce qui se passe à Doha, par exemple, et que vous souhaitiez même que ça soit totalement interrompu. Alors, quel est, selon vous, puisque vous avez répété plusieurs fois que vous n'y croyez plus, qu'est-ce qui doit être fait finalement? Est-ce qu'on doit abandonner tous ces processus? Selon vous, on doit garder seulement les deux autres et éliminer Doha? Selon vous, dites-nous un peu de manière tranquille, quelle serait votre solution, la solution qui conviendrait le mieux pour apporter les bons résultats?
Monsieur Chaudi, je dois vous dire ici que...
Dona Madimba plutôt.
Je dois vous dire ici que la réussite d'un processus de paix dépend aussi de la capacité du médiateur. Ça, il faut le retenir. Le Qatar, c'est en tout cas, est perçu comme un médiateur moins fort pour conduire ce processus entre les deux protagonistes. Parce que si, dans les communiqués finaux, vous trouvez que ce sont les caprices des protagonistes qui priment. au lieu de l'idéal qui est celui de ramener la paix et la sécurité rapidement dans les zones occupées et que nos populations recouvrent. Parce qu'on négocie pourquoi? C'est au nom de ces populations-là. C'est au nom de l'humanité. Si le Qatar s'est engagé dans ce processus, c'est par droit de solidarité. Alors, si la solidarité cède aux caprices des protagonistes, qu'est-ce qu'on dit? Humblement, moi je l'ai dit, c'est de demander au Qatar de prendre tous ses papiers, de les orienter au gouvernement américain, à l'administration Trump, pour avoir un processus additionnel aux accords de Washington, afin que ce soit Washington qui pilote, parce qu'on trouve que quand même, l'administration Trump a une force de contrainte sur le protagoniste pour aller vers l'idéal. Malgré que son accord n'est pas encore appliqué, mais on a quand même un accord. Mais ici, on continue à patauger alors qu'on a commencé avant. Ça, c'est déjà des propositions concrètes pour dire Doha remettre le dossier entre les mains des États-Unis pour que les États-Unis continuent et effacent son pouvoir de coercition sur les acteurs pour aller vers l'idéal. Et aller vers l'idéal, c'est de dire quoi? Ces gens-là n'ont pas le droit de discuter sur nous sans nous. C'est-à-dire quoi? Ils vont discuter sur le cessez-le-feu, ils vont discuter sur la remise de prisonniers, et ils vont discuter sur le désengagement de forces rebelles, leur cantonnement, et commencer le processus de réinsertion avec le PDDRCS et tous ceux qui l'accompagnent. C'est ça, c'est là où ils doivent se limiter. Les autres sortes de ressources, réformes institutionnelles, quoi, ça ne les concerne pas, ça concerne tous les, c'est la souveraineté du peuple congolais. Et donc, les rebelles ne doivent pas en discuter. Comment ils peuvent se faire les leaks sur nous, les Congolais? Voilà un peu nos propositions qui sont plus sévères, oui, mais concrètes pour aller vers ce qu'on recherche. On doit changer déjà le médiateur. Il doit lever les mains et accepter. Parce que ça, c'est un échec. On ira jusqu'à quand? Avec de telles jérémiades.
On dirait... Alors, le processus peut garder son nom de processus de paix de Doha, mais est confié aux Américains, selon vous?
Oui, pour une médiation, afin d'aboutir à un accord additionnel à l'accord de Washington. C'est ça. Maintenant, dans le cahier des charges où le protocole a discuté, il faut le reformuler jusqu'à ce qu'il discute sur ne fût-ce que trois. Nos protocoles sur cesser le feu, protocole sur et les remises des prisonniers, échanges de prisonniers, et protocole sur les désengagements, cantonnements, et maintenant, processus de réinsertion. Et après, on peut discuter aussi sur la justice et consorts. Mais les autres là, qui touchent la souveraineté, il ne faut pas y toucher. Ça c'est réservé au peuple congolais. Alors, pour moi, c'est de dire, si aujourd'hui on restera avec Doha, donc, ils sont en train de profiter, c'est qu'il faut dire vrai, la rébellion est en train de faire l'exploitation des minerais. Et tous ces États-là qui s'improvisent médiateurs en profitent au dos du peuple congolais qui meurt du jour au jour. Chaque jour, nous sommes gênés par des appels. Ici, on a tué. Ici, on a volé. Ici, on nous chasse dans des maisons pour amener d'autres occupants. Ici, on nous chasse dans des champs pour amener d'autres occupants. Mais l'autre vous amène un communiqué pareil pour vous dire, nous, on discutera, mais quand on saura juger sur ce que nous prenons pour priorité. Donc, priorité n'est pas la vie humaine. Alors qu'on discute pour la vie humaine, pour garder la vie, pour protéger la vie. Alors si on discute pour garder ses intérêts, ses positionnements, surtout économiques, qu'est-ce qu'on fait?
Merci à vous, Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Merci également à Rien Miviri, avocat et chercheur, à Ebouteli, l'organisation partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Sans oublier Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert des questions de sécurité. Merci à tous trois donc pour la participation à cette émission. Merci aussi à Grace Amzati, à Pierre Diassinois et Chembe Eloku pour leur accompagnement éditorial. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.